Et vous écoutez France Culture. La science moderne nous apprend qu'il y a derrière du visible simple, de l'invisible compliqué. Louis Powells, Jacques Bergier. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais jour à Marseille en ce samedi et ce à l'occasion du troisième temps du Work in Progress, un autre monde dans notre monde, troisième exposition, consacrée cette fois par le FRAC Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Fondation Agnès B au réalisme fantastique, initié au début des années 60 par les auteurs du Matin des Magiciens. Ce carrefour de la science et de l'ésotérisme, du fantastique et de la technologie ne cesse d'être réinvesti par les artistes contemporains. La preuve en acte ce soir dans Mauvais genre. On ouvre cette visite, cette déambulation, pérégrination dans l'exposition, donc Un autre monde dans notre monde, consacré au réalisme fantastique, avec cette vidéo de Laurent Grasso, qui représente l'avenue Victor Hugo à Paris, mais submergée par un gigantesque nuage qui avale tout le décor, les voitures, les façades, et on ne sait pas d'où il vient, d'où il provient, et s'il a, comme dans Fog de John Carpenter, de bonnes ou de mauvaises intentions.
En tout cas, le nuage semble se rapprocher de plus en plus de nous. Je ne sais pas si c'est une invitation à rentrer. En tout cas, c'est une invitation à plonger dans un univers pour le moins mystérieux et étrange.
Alors, plongeons. On est accueillis, bien évidemment, puisque le réalisme fantastique date de 1960. Powells et Bergier, Le Matin des Magiciens, La Revue Planète, les 23 numéros. Par tous les fondateurs et les grands inspirateurs de Powells et Bergier, on voit Teilhard de Chardin, visage austère. On voit René Guénon, visage austère également. Raymond Roussel, qui est là. On voit d'autres grands visionnaires fantastiques. Et puis en bas, il y a quelques publications qui ont compté dans l'histoire du mouvement, notamment La Brèche, une des dernières revues surréalistes. Et puis le Livre des damnés de Charles Fort, qui est véritablement à l'origine de cette réflexion et de l'ouvrage de Powells et Bergier, justement, une espèce de grand guide des phénomènes inexplicables et qui a donné le fortéisme, une discipline qui aujourd'hui existe encore avec son bulletin, ses adeptes et un réseau international, voire mondial.
François, on a presque l'impression d'être devant un hôtel avec les ancêtres bienveillants qui sont là et qui veillent sur nous. Il y a Darwin aussi, avec sa longue barbe sur notre gauche. Tous ces portraits qui semblent nous regarder et veiller sur une exposition qui est dédiée au réalisme fantastique.
Oui, il y a un sentiment de sacralité, de chapelle, une chapelle ardente, avec des pères de l'Église, avec des livres sacrés. Là, on a l'Opus Solus de Raymond Roussel dans l'édition de Jean-Michel Autoniel, un livre d'artiste qui figurait un peu une Bible avec les signets armoriés. Là, il y a une étoile. Donc, on est dans une sorte de sacralité païenne, de sacralité de l'imaginaire, de culte inconnu, dont on va découvrir les moments du rituel et les grands célébrants.
Et qui va tout à fait avec cette ambiance assez sombre, la lumière est tamisée, l'ambiance est plutôt presque inquiétante au niveau de ces sons, de ces vibrations qu'on ressent. Tout ça dans une certaine obscurité, des images qui s'animent, des dessins sur les murs, un vidéoprojecteur avec, regardez François, Bernadette, endormie, peut-être, extatique, je ne sais pas, comment est-ce qu'on pourrait décrire son visage ?
Elle est extatique et elle est endormie puisqu'elle est dans son dernier sommeil. Je pense que c'est le corps embaumé de la sainte, de la visionnaire, donc, mais qui est filmé d'une manière, je dirais, totalement désacralisée, au sens où aucun objet religieux, aucun signe religieux ou d'adhésion, quelconque culte n'apparaît. Elle est là un peu comme une figure, comme celle qu'on peut voir dans certains cimetières en Italie ou en France, au Père-Lachaise. Des figures qui n'ont plus pour elles que la paix et leur mystère. Il n'y a plus que le mystère, tout le reste a disparu.
Avec ses yeux fermés qui nous appellent à aller au-delà, traverser les mondes pour aller voir ce qu'il s'y passe.
Alors Céline, c'est une exposition qui est co-dirigée, on peut le dire, par la Fondation Agnès B, Jean-François Sens, et par le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le directeur est avec nous, Pascal Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le réalisme fantastique, avant que cette exposition se tienne dans vos murs, est-ce que cette exposition avait un sens pour vous ? Est-ce que vous êtes un lecteur du Matin des Magiciens ? Est-ce que vous êtes aimanté, magnétisé par le fantastique ou l'ésotérisme ?
Non, du tout. Je connaissais absolument pas le réalisme fantastique. J'avais entendu parler de l'édition de la revue Planète et de la dynamique éditoriale qui avait été créée autour de ce mouvement. Mais c'est vraiment la rencontre avec Jean-François Sens qui a permis justement de vraiment découvrir les fondamentaux, de pouvoir rentrer, lire Le Matin des Magiciens, découvrir l'univers de Louis Powels et Jacques Bergier et de commencer à imaginer cette exposition au FRAC à Marseille.
Comment est-ce que vous avez procédé ? Vous vous êtes promené dans les collections du FRAC et puis avec ces deux termes, réalisme fantastique, vous avez pioché, picoré et créé un univers ?
L'invitation était claire en fait, c'était de confier le commissariat à Jean-François Sens, qui lui connaissait parfaitement bien ce sujet, et de l'inviter effectivement, étant à Marseille et étant dans un FRAC avec une collection d'art contemporain, qu'il puisse en fait développer cette thématique en se nourrissant des œuvres de la collection et en se nourrissant aussi d'artistes qui vivent et travaillent à Marseille. C'est-à-dire de vraiment partir du corpus qu'il avait initié lors de l'exposition à Paris, à la Galerie du Jour et à Bruxelles, mais d'en donner une version vraiment différente en convoquant un certain nombre d'artistes qui, pour certains d'ailleurs, sont présents au vernissage et ne connaissaient pas non plus le réalisme fantastique, mais qui offrent à travers cette exposition une lecture différente de leurs travaux. C'est ce qui était intéressant dans le sujet, c'était d'amener une dimension très contemporaine à un mouvement des années 60 et de voir comment aujourd'hui une scène artistique contemporaine peut trouver à travers le réalisme fantastique des liens et des filiations de toute évidence. En fait.
Est-ce qu'il y aurait un réalisme fantastique marseillais ?
Ce serait bien qu'il y ait un réalisme fantastique marseillais. En tout cas, c'est effectivement beaucoup d'artistes. On a la chance d'être sur un territoire où il y a énormément de laboratoires et de grandes écoles d'ingénieurs, laboratoires de recherche, de CNRS et autres. Et les compagnonnages entre les artistes et les chercheurs ont donné lieu à des productions effectivement qui sont très intéressantes et certainement très spécifiques à la situation marseillaise, d'avoir vraiment cette vitalité de scientifique et cette présence très très forte et en même temps une communauté d'artistes extrêmement riche à Marseille, dans toute la région d'ailleurs.
Par ailleurs, Marseille est la ville où les surréalistes étaient repliés à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avant de partir en exil. Il y a eu toute une sorte de communauté provisoire, une sorte d'utopie surréaliste qui s'était créée sur place. Donc la ville a été traversée par des ondes surréalistes, au moins à un moment de son histoire. Cela dit, on parlait de réalisme fantastique, donc de Bergier et de Powels. Tous les artistes ne peuvent pas être forcément contents d'être identifié, d'être catalogué avec ces deux personnalités qui peuvent ne pas plaire. Certains peuvent travailler, présenter des œuvres, des créations, mais bon, le fait d'être amené du côté de Louis Powels peut ne pas satisfaire.
Effectivement, il y avait, alors par rapport au surréalisme et à la scène marseillaise, effectivement, la présence de Fred II dans l'exposition fait effectivement le lien avec cette histoire du surréalisme à Marseille et sa présence à Marseille à un moment donné, étant donné que c'était un artiste qui avait essayé de fédérer le groupe surréaliste marseillais à Marseille, en tout cas. Et ensuite, effectivement, ce qui était intéressant, c'était qu'il y ait une discussion, une rencontre, un échange avec Jean-François Sens en amont de l'exposition pour que les artistes qu'on pressentait comme faisant partie du corpus puissent vraiment s'y retrouver et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur et ni d'exploitation, ni d'interprétation malveillante de leurs travaux par rapport à Louis Powels et Bergier, mais de rester vraiment sur les sujets, sur les thématiques que développe cette exposition.
J'aimerais revenir sur le lien que vous avez fait entre les laboratoires, le côté scientifique, cette association entre les scientifiques et les artistes qui est propre à Marseille. Est-ce que dans l'exposition, vous auriez des exemples de ce type d'artistes ?
Il y a plusieurs exemples qui sont effectivement très, très enclins, très en lien avec cette dynamique. Bettina Sanson, en l'occurrence, qui a travaillé avec des objets en verre qui sont une représentation possible de la matière noire. Et pour cela, elle avait été en 2013 en compagnonnage, en résidence dans un laboratoire d'astronomie à Marseille pour pouvoir justement travailler avec les chercheurs et pouvoir travailler à partir de leurs recherches, de leurs propres croquis, de leurs propres travaux scientifiques pour en arriver à une interprétation plastique, en fait. Donc on est vraiment dans ce lien. C'est un des aspects qui rend le réalisme fantastique très, très, très vivant par rapport à la scène contemporaine, c'est que ça croise des préoccupations d'artistes et de chercheurs, et souvent même dans les modes de recherche, où on peut être confronté à une recherche de pointe extrêmement avancée, et en même temps avoir une dimension expérimentale, s'inventer ses propres outils, bricoler dans l'atelier ou bricoler dans le laboratoire, comme un artiste le ferait dans son atelier, en fait.
D'autant plus que le réalisme fantastique a développé une véritable songerie plastique ou littéraire à partir de découvertes scientifiques. Si on prend par exemple les trous noirs ont fait rêver les théoriciens de la littérature. On imagine qu'il y a des trous noirs romanesques qui peuvent avaler le langage. Il y a des trous noirs cinématographiques. C'est pareil, on part de découvertes scientifiques, d'approximations, d'orientations, comme ça, et la songerie développe des œuvres. Là, c'était peut-être un mode de rapport très particulier entre les sciences et les arts.
Ça ouvre beaucoup d'horizons, en fait, qui sont effectivement nourris d'une dimension narrative, de récit que chaque artiste peut offrir de façon très, très différente à chaque fois. Donc c'est effectivement tout un univers qui s'ouvre, en fait, avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de mystères. Et c'est ce qui rend la chose d'autant plus intéressante pour les artistes. Ils ne sont pas du tout sur une matière qui est vraiment identifiée, mais au contraire, sur un territoire très, très vaste sur lequel il n'y a aucune limite et aucune frontière aujourd'hui. Autant les chercheurs que les artistes repoussent justement de plus en plus cet horizon et ses limites.
Troisièmement, les choses de la soie.
François, nous avons des visions assez fantomatiques. Nous avons des draps qui sont suspendus et sur lesquels sont imprimées des photos en noir et blanc, qui sont les photos faites par un photographe belge nommé Norbert Gisolan. Sur ces photos, ce sont des êtres en noir et blanc, donc des photographies, petits enfants, adultes, qui ont l'air figés comme ça dans le temps, avec un regard un peu perdu, une pose assez hiératique, et tous ont quelque chose d'un petit peu étrange du domaine du jeu, de l'enfance. Alors ils peuvent être sur un cheval à bascule, les adultes peuvent porter un loup sur le visage, il y a deux enfants qui sont déguisés en korrigan, et l'impression, avec cette transparence apportée par le tissu, fait que on les prendrait presque pour des fantômes qui s'agitent au gré des visiteurs qui passent et qui créent des sortes de courants d'air comme ça.
Oui, effectivement, ce sont des photos réalistes. C'est-à-dire, ce sont des familles qui sont allées chez un photographe de studio se faire prendre en photo. Alors, il y a les enfants, les parents ont fait photographier leurs enfants, les parents se sont fait photographier avec leurs enfants. Et donc, apparemment, rien d'extraordinaire. Sauf qu'effectivement, nous avons affaire à un photographe rusé, un photographe un peu sorcier, qui a costumé les enfants en korrigan, vous le disiez, avec des chapeaux pointus. Donc là, on n'est plus dans le réalisme scolaire ou familial, on est dans véritablement une sorte de fantastique folklorique. Là, il y a un petit garçon qui tient un ballon, mais c'est un ballon noir, entre deux boules de pierre, ce qui est assez étonnant, et qui, en plus, il a autour du cou une espèce de pompon. À côté, il y a une petite fille qui est sur un cheval à bascule. Mais les décrire ne donne rien. C'est le sentiment extrêmement singulier qui fait qu'on ne sait effectivement pas si on a affaire à des enfants photographiés ou à des spectres apparus, d'autant que les photos ont été reproduites sur des toiles très fines et que ceux qui passent derrière sont visibles. Et là, c'est un clin d'œil et une allusion évidente à la photographie spirite, dans laquelle on sait que derrière le voyant, le médium qui est assis, le plus souvent prostré, eh bien apparaît un ectoplasme ou la figure d'un fantôme. Donc là, c'est le visiteur de l'exposition qui devient le fantôme de l'apparition. C'est assez très réussi. Et le meilleur moyen d'en savoir un peu plus sur ce photographe et sur ses photos, c'est de demander à Jean-François Sens de quoi s'agit-il.
J'ai découvert Norbert Gisolan pendant la Biennale de Venise. Il y avait un pavillon dans lequel Cindy Sherman avait fait un commissariat d'une exposition dans laquelle elle avait montré une série de photos de Gisolan. Et j'ai été totalement fasciné par ses portraits. Il y a certaines des photos qui sont ici que j'avais déjà vues là-bas dans des tirages d'époque. C'est quelque chose qui est resté toujours dans un coin de ma mémoire. Et puis, lors de l'expo, la version bruxelloise de l'exposition en 2018, on a eu la chance de rencontrer les ayants droit de Gisolan et de pouvoir présenter quelques portraits. Et du coup, là, on a fait une sélection un peu plus élargie de 5 portraits, effectivement. Gisolan a fait énormément de photos. Il tirait le portrait de ses contemporains au début du XXe siècle en Belgique. Donc, il y a plus de 90 000 clichés qui ont été réalisés sur plaque de verre. Donc voilà, il reste un fonds qui est exploité par son petit-fils, notamment, Marc Gisolan. Et voilà, comme il n'y a pas vraiment d'original, c'est des tirages sur plaque de verre, je lui ai proposé de faire ces tirages sur voile de polyester, justement pour pour souligner un peu l'aspect fantomatique de ces portraits, l'aspect potentiellement fantastique, et pour créer une espèce de second rideau, parce qu'on est, quand on arrive dans l'exposition, il y a un premier rideau qui obture la lumière pour qu'on voit bien la vidéo de Laurent Grasso qui ouvre l'exposition. Et ensuite, il y a une espèce de second rideau qui est fait par ces portraits tirés sur voile. Et l'idée, c'est que les spectateurs se faufilent entre eux, les frôlent, voilà, et qui bougent un peu comme ça en permanence, ce qui anime un peu la photo. En même temps, on voit à travers, il y a un jeu de transparence. Et c'est vrai que j'ai choisi vraiment les portraits qui me paraissaient les plus étranges et les plus déroutants, quoi.
Alors on se retrouve cette fois-ci non pas à Paris pour une exposition liée au réalisme fantastique ou au mauvais genre, mais à Marseille pour toujours le réalisme fantastique, parce qu'on se rend compte qu'il s'agit d'un work in progress, comme on dit, un premier temps de votre réflexion de commissaire sur cette idée, cette notion, je ne sais pas très bien, ce concept a eu lieu à Paris, ensuite deuxième temps a eu lieu en Belgique, et là Marseille c'est le troisième temps. Alors ce troisième temps, quelle allure spécifique avez-vous souhaité lui donner et quels sont les artistes que vous avez imaginé joindre à l'aventure ?
C'est, disons, la version la plus aboutie, la plus riche de l'expo, et la plus ambitieuse à ce jour, avec pas mal de nouveaux artistes qui ont été rencontrés entre-temps, notamment sur l'étape bruxelloise du projet, et puis d'autres travaux qui ont été vus dans des expos des artistes avec lesquels j'étais en contact. Et puis aussi beaucoup de nouvelles œuvres qui sont venues enrichir l'expo, qui proviennent de la collection du FRAC Provence-Alpes Côte d'Azur et du FRAC Grand Large Hauts-de-France, qui sont tous deux partenaires et coproducteurs de l'expo.
Alors, ces artistes nouveaux, qu'est-ce qu'ils ont amené à la définition de cette entité bizarre, de cette constellation assez singulière qui est le réalisme fantastique? En quoi ont-ils apporté des ingrédients nouveaux et particuliers?
Toujours des nouveaux éclairages. Par exemple, si on prend l'œuvre d'Alexis Choplin qui est présentée dans l'exposition, voilà, il y a un travail sur un élément qui est l'eau, travail de son et de lumière qui fait se comporter l'eau de manière assez étrange. Quand on la voit couler, on a l'impression qu'elle s'arrête ou parfois qu'elle remonte vers sa source. Le travail de Jackson aussi, qui traite beaucoup de l'actualité, des chaînes d'infos en continu, et qui montre un peu comment on est un peu submergé par toutes ces données qui nous arrivent en permanence. Après, il y a aussi pas mal de travaux anciens, plus anciens. Par exemple, je pense à une œuvre de Eric Duikert qui présente un squelette doté de 6 doigts, dont 2 pouces. Hein. Eric Duikert qui nous explique dans une vidéo, pendant un petit quart d'heure, les avantages anthropologiques et pratiques d'avoir 6 doigts et 2 pouces au lieu d'un seul. Vision un peu satirique et humoristique, mais en même temps avec un discours pseudo-scientifique très construit et très argumenté.
Est-ce que, au fur et à mesure de toutes ces années où vous êtes penché sur le réalisme fantastique, est-ce que votre univers, votre représentation du réalisme fantastique a évolué? Est-ce qu'elle a pris des directions que vous ne soupçonniez pas du tout au départ?
Elle s'est enrichie et élargie, je dirais, travaillant sur ce projet et ayant la volonté de le faire évoluer et rebondir. Pas mal des nouvelles choses que je vois, des nouveaux travaux que je vois, j'ai tendance à les interpréter à travers cette grille de lecture. Donc oui, forcément, elle s'est élargie. Et à chaque nouvelle étape, il y a des nouveaux pans qui se mettent en place, quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui se... Mais je pense qu'en même temps, les thématiques du réalisme fantastique sont tellement partout dans la culture contemporaine qu'on baigne tellement dedans que on peut trouver des traces et des échos de tout ce qui a été mis en place dans les années 60 un peu partout à divers niveaux de la création, qu'on parle de culture populaire ou d'art contemporain. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font écho et qui se situent dans une forme de filiation thématique et théorique par rapport à ce mouvement.
André Breton avait une définition du surréalisme assez intéressante. Il disait, le surréalisme, on chercherait vainement au surréalisme un autre but que de trouver ce qui fait que le haut et le bas, le passé et le présent, le futur, cessent d'être perçus contradictoirement. Et là, justement, on peut penser à cette définition en voyant toutes les photos qui sont mises, puisqu'il y a quoi? Il y a Teilhard de Chardin, il y a Raymond Roussel, il y a René Guénon, il y a des figures de théosophes. Et tous ces gens-là, que l'histoire classique, ne confondent jamais avec le réalisme fantastique cessent d'être perçus contradictoirement. Donc ça en donne une très bonne définition. À côté, on voit apparaître quelques numéros qui se succèdent sur un écran, des 23 numéros de Planète. Et devant, c'est, on pourrait dire, l'homme qui a créé la charte graphique du réalisme fantastique, c'est Gourmelin, avec ses étonnantes visions qui peuvent d'un climat qui approche celui d'Escher, où il y a à la fois des éléments réalistes au sens rigoureux, géométrique, rationnel, rationnellement installé, notamment des globes, et puis des personnes, toutes ces, également des cubes, et tous ces éléments géométriques, donc rationnels, sont mis en danger par des personnages qui sont des personnages un peu à la Giacometti, qui sont nus, filiformes, et qui dansent sur ces globes, qui sont assis méditativement sur ces sphères, et qui inquiètent un petit peu tout cela. Donc au départ, on a les fondamentaux.
Oui, au départ, il y a effectivement une introduction de l'expo qui est un peu historique et qui replace les choses un peu dans leur contexte, avec notamment cette lettre de Jean Cocteau adressée à Louis Powells qui constitue une sorte d'adoubement théorique du réalisme fantastique. Alors qu'en parallèle, on a une lecture d'Emmanuel K., autrice proche du mouvement situationniste, proche de Debord, de Van Hegem, etc., qui m'a fait connaître ces textes surréalistes écrits notamment par Ben Ayoun, préface et postface du livre des damnés de Charles Fort, de l'édition Losfeld de 67, où il développe un regard très critique vis-à-vis de ce mouvement. Et du coup, je trouvais ça intéressant de remettre en perspective, déjà de donner un contrepoint critique, parce que le but de l'exposition et du projet n'était pas d'avoir une démarche hagiographique par rapport à ce mouvement, mais aussi de montrer que d'autres surréalistes, comme Cocteau, qui est quand même un pape du surréalisme, avaient une approche beaucoup plus positive et ouverte du réalisme fantastique.
Donc on voit bien que là, on est avant le réalisme fantastique de Powells et Bergier, mais qu'on retrouve ces notions parce que finalement, le passé, le présent, le futur, peu importe, c'est quelque chose de réalisme fantastique, c'est quelque chose qui peut infuser et qui n'a pas vraiment un sens dans l'histoire, quelque part, puisqu'il y a un écho avec ce photographe belge.
Oui, tout à fait. Je pense que ça confirme bien la théorie, enfin le présupposé, le postulat de départ de Powells et Bergier, qui était que le réalisme fantastique, c'est de débusquer le fantastique au cœur même du réel. Et là, les photos de Guy Soland, c'est juste des gens qui venaient se faire tirer le portrait, bon, parfois en costume de Pierrot, parfois masqués, déguisés, mais voilà, c'est quand même des photos je dirais, qui relèvent du quotidien, de la documentation familiale ou ce genre de choses. Et pourtant, effectivement, on leur trouve un aspect fantastique. Donc, effectivement, le fantastique réside bien au cœur du réel et il suffit parfois de décaler un petit peu le regard pour le percevoir.
Maintenant, on va se rendre dans le fond de la salle pour voir les œuvres donc, de deux artistes qu'a évoqué Jean-François Sens, Alexis Choplin et Jackson. Alors, on s'approche d'abord de la création d'Alexis Choplin. Bonsoir.
Bonjour.
Le réalisme fantastique porte en lui un peu la nostalgie de cette époque où les scientifiques, disons Newton et autres, avait aussi des activités artistiques, mystiques, voire ésotériques, parce que là, vous avez à la fois travaillé de manière rigoureuse sur le lot, et en même temps, cette eau, vous lui avez donné une apparence singulière, on dirait une espèce d'éclair, de trombe, comme ça, qui tombe et qui ondoie.
C'est un système hydraulique en circuit fermé, à la manière d'une fontaine, en fait, un peu hein, comme ça. Et en fait, vous avez le tuyau d'eau qui est dans le bloc supérieur, qui est attaché à un haut-parleur. Ce haut-parleur vibre et du coup fait vibrer l'eau dans sa chute et on a une lumière stroboscopique, donc c'est des appareils qui envoient des flashs de lumière à des fréquences qu'on est capable de déterminer. Et en fait, la lumière révèle l'onde sonore à travers un filet d'eau qui, si on le regarde en pleine lumière, en fait on voit rien du tout. C'est dans le noir avec des flashs de lumière qu'on décèle une onde sonore. Donc c'était aussi la question de rendre l'onde sonore, qui est quelque chose d'invisible, de le rendre visible.
On est au cœur de la problématique de cette exposition, c'est que nous, on voit cette œuvre, immédiatement on construit autour un récit, des visions, des cauchemars, des bizarreries, et vous en donnez une définition scientifique extrêmement simple, carrée, définitive, c'est une machine qui fonctionne de cette manière, avec, je dirais, un certain nombre d'éléments, voilà. C'est un peu ça, cette tension entre des rêveries, des songeries un peu cauchemardesques d'ailleurs, et puis en définitive un appareillage, un dispositif scientifique assez facilement résumable et somme toute assez simple. Le génie, il est peut-être là.
Oui, mais c'est pour ça que ce projet, je le mène, c'est qu'en fait c'est tellement simple. Ce projet-là, en fait, à un moment donné, je l'ai construit en maquette, en tout petit, parce que j'avais pas d'atelier et que j'avais pas la place de mettre ça chez moi, quoi, globalement. Et le fait de construire ça en tout petit m'a amené à concevoir tous les dispositifs techniques, donc la pompe, le stroboscope, les synthétiseurs, les haut-parleurs, les amplis. Et du coup, j'ai pu en construisant tous les dispositifs, il y a un truc, à un moment, on arrive à un truc hyper technique et hyper scientifique. Et finalement, tout ça n'est que le résultat d'expérimentation avec un fer à souder, des changements de composants et de résistance, en fait.
Ce qui est aussi assez incroyable avec cette œuvre, c'est la manière dont vous pouvez l'aborder. Parce que quand vous la voyez de loin, on ne sait pas ce que c'est. On se dit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un éclair dans le ciel qui zèbre le ciel ? Et puis, plus on se rapproche, plus on est happé par ces vibrations, donc on vibre tout l'intérieur du corps. Et puis, on a le bruit de l'eau. Et tout à coup, on se dit, mais que fait la présence de l'eau dans cet univers-là ? Et jusqu'au moment, enfin, je ne sais pas après si c'est autorisé, nous avons passé notre main à travers ce rideau d'eau. Et tout à coup, là, toute l'image s'est à nouveau transformée. On a eu l'impression que cette lumière qui venait du ciel pour tomber vers le bas remontait vers le ciel. Donc un grand moment presque surréaliste, François.
Oui, on a le sentiment, et j'invite d'ailleurs tous les visiteurs de l'exposition à faire, que l'on puisse là empoigner un éclair. C'est-à-dire, l'éclair, la plupart du temps, est quelque chose que l'on voit d'en bas, comme ça, bon, qu'il ne faut surtout pas s'approcher, et avec vous, on peut empoigner un éclair.
Oui. Il y a cette notion-là, clairement, quoi, hein, mais je pense que c'est plus une question de forme, du coup, que le son donne, comme ça. Mais c'est vrai que j'invite complètement les gens à toucher. Mais cette question du bruit d'eau, là, dont vous parlez, c'est drôle, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, peut-être, ce serait intéressant de le supprimer complètement et de trouver un espèce de système d'éponge à mettre en dessous et faire en sorte qu'on n'entende plus du tout. Et en fait, pas du tout. En fait, il faut que ça reste, parce que travailler avec un matériau aussi noble que l'eau, en fait, il faut juste le rendre vivant et visible, quoi, je pense. Mais c'était des problématiques, en tout cas, que je me suis posé au fur et à mesure.
Je crois que ce qui est vraiment fort, c'est ce côté mirage, le mirage sonore, le mirage visuel, et puis ce côté aussi des vibrations qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on voit.
Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. C'est vrai que, d'ailleurs, même les vibrations, enfin le son qui fait vibrer l'eau, c'est des fréquences très basses, en fait, qu'on n'est pas capable d'entendre, a priori. Et par contre, ce qu'on entend, qui est diffusé sur les haut-parleurs à côté, en fait, c'est la même pièce sonore qui fait vibrer l'eau, mais transposée à des octaves plus haut, que j'ai traité avec des effets, des fils, tout ça. Mais en tout cas, il y a une espèce d'honnêteté comme ça entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, quoi. C'était pas une question d'interpréter, de faire une composition sonore, d'ambiance ou quoi, pas du tout. C'était important pour moi de garder une espèce de sincérité comme ça.
On va quitter le mirage de l'eau pour se diriger vers un autre mirage, voilà. Un brouillard coloré qui est l'œuvre d'un artiste nommé Jackson.
Jackson, que Jean-François Sens évoquait, mais il est avec nous. Donc on se déplace vers le brouillard et alors on longe trois gigantesques photos de façades de cathédrales gothiques qui ont été retouchées numériquement donc par un photographe, et ce qui permet d'évoquer la figure de Fulcanelli et du secret des cathédrales, cher aux auteurs du Matin des Magiciens. Alors maintenant, on est avec Jackson. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jackson, avec vous, on n'est plus ni dans la chute d'eau, la cataracte, ni dans l'éclair. On est dans quelque chose d'impalpable, quelque chose que l'on ne peut pas toucher, la brume, le brouillard. Quel a été, alors justement, vous, votre projet? Et comment, là aussi, est bâti le dispositif technique, technologique, qui aboutit à ce résultat?
Cette pièce s'appelle Fog News, Et c'est un dispositif qui projette des informations prélevées de chaînes d'information en continu sur un brouillard d'eau en évaporation et qui a été conçu autour de la manière dont la lumière se décompose en spectre et l'analyse du spectre acoustique et vidéo. Et donc il s'agit pour moi de proposer une nouvelle lecture de l'actualité et éventuellement d'agir sur les événements à venir en fonction dont l'actualité est présentée. Je me suis concentré sur la théorie de la prophétie autoréalisatrice et la manière dont notre regard sur l'actualité agit sur les événements à venir. En parallèle de ça, il y a aussi un commentaire sur le bruit informationnel et le brouillard idéologique qui en est induit, puisque l'information a tendance à se nuire elle-même, puisqu'elle a tendance à s'évaporer. Donc il y a une allégorie sur la société de l'information et en même temps cette rencontre entre un brouillard et de la vidéo qui génère en temps réel de l'image et aussi une traduction des propriétés de cette image en son.
Alors en quoi, Jean-François Sens, le travail de Jackson vous a fait penser au réalisme fantastique ?
Je trouve qu'il a, donné une apparence assez magique et assez fantastique à ce flux, d'infos qui nous parvient en permanence, qui nous sature. Et voilà, je pense aussi que le réalisme fantastique, c'est quelque chose, c'est un rapport à la connaissance. Et on est aujourd'hui dans une époque où l'humain génère tellement de data qu'il est, il est bien en peine de pouvoir toutes les gérer, les traiter, les interpréter. Et je trouve que l'œuvre de Jackson, Fog News, met vraiment ça en évidence, quoi. Il y a une info chasse l'autre en permanence et on se retrouve confronté à ce brouillard qui prend, du coup, avec la projection de l'image dans les particules d'eau, ça fait une espèce d'hologramme. Voilà, j'essaye de décrire pour qu'on se représente un peu visuellement ce que ça rend. Et voilà, on est dans une espèce de fiction qui vient en fait de la réalité, du réel, en temps réel. Et voilà, qui a quelque chose d'un peu vertigineux, quoi.
Ce que j'apprécie tant, c'est de pouvoir toucher le brouillard, de pouvoir d'avoir cette espèce de sensation humide sur les doigts et sur la main, que votre main traverse le brouillard et que vous le sentiez si proche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas traversé un brouillard.
En même temps, il est question de matérialiser des flux, de donner une existence visible et en même temps physique à l'expression, en tout cas, une forme de représentation du réel qui peut potentiellement nous échapper ou nous déconnecter du monde tangible. Donc, c'est un nuage d'informations qui renvoie à une certaine forme de brouillard idéologique.
On continue notre pérégrination, nous sommes des pèlerins. Les pèlerins du réalisme fantastique, et là on va changer de niveau, on va passer du niveau 1 au niveau 2 avec de nouveaux artistes et de nouvelles visions.
Bonsoir Abdelkader Benchama. Bonsoir. Heureux de vous rencontrer puisque la précédente fois que nous avons évoqué le réalisme fantastique dans le cadre de cette exposition Agnès B, vous n'étiez pas là, mais vos œuvres étaient là et on en avait beaucoup parlé avec Jean-Luc Rivera. Donc, heureux de vous rencontrer puisque vous allez pouvoir nous éclairer sur cette énorme fresque en noir et blanc qui travaille justement l'inquiétude et la fascination qu'on peut avoir pour les apparitions d'ovnis, pour tout ce qui est ufologique. Alors quel est un petit peu votre souci et votre démarche à l'égard de l'ufologie? Elle n'est pas critique, elle n'est pas géographique, elle est analytique, quelle est-elle?
En fait, j'aimerais élargir parce que effectivement, l'ufologie fait partie des quelques questions que j'aborde dans le mural. Mais en fait, dans un sens large, c'est plutôt les manifestations célestes dans l'histoire et savoir comment ces manifestations célestes en fait, ont été toujours appréhendées, modifiées, comprises selon les époques. En fait, pour moi, j'ai l'impression en fait, qu'elles font partie d'une sorte de grande histoire. En fait, qui en fait, est assez simple, c'est-à-dire des hommes sur Terre qui regardent le ciel et qui tentent de créer une communication, un lien, et qui vont projeter des choses par-dessus. Et donc l'installation qui est devant nous, qui s'appelle Substrat, parle un peu justement de cette idée-là, et que toutes ces histoires, toutes ces narrations, toutes ces fantasmagories qu'on a héritées, peut-être qu'en fait, elles nous habitent encore, peut-être qu'elles créent une sorte de substrat, de couche comme ça, inconsciente, et qui, sans qu'on le sache, influence nos perceptions et nous pousse à imaginer ou déformer des choses. C'est-à-dire, il y a un ouvrage de Carl Gustav Jung qui s'appelle « Un mythe moderne » qui développe un peu cette idée-là, savoir peut-être que les ovnis d'aujourd'hui sont les anges d'hier, en passant par les ghost airships, c'est des dirigeables fantômes. Il y a une vague de dirigeables fantômes aux États-Unis au début du siècle. Donc c'est hyper intéressant, ça parle aussi de notre manière de percevoir. En fait, on perçoit toujours que ce qu'on connaît et que ce qu'on va projeter, ou alors des peurs du progrès. Donc ils n'avaient jamais vu de dirigeables aux États-Unis, et en même temps, de nombreux individus pensaient voir des dirigeables. Et au même moment, les premiers dirigeables volaient en France. Donc, ils avaient vu ces images dans la presse. Donc, inconsciemment ou consciemment, ces images les ont travaillées. Donc, la fresque parle un peu de ça. Et je mets en scène une sorte presque de cabinet de curiosité où je redessine des archives, j'en invente certains, j'en modifie d'autres. Ou alors, certains dessins sont plutôt des dessins imaginaires, mais créer une sorte de... Voilà, de cartes comme ça, des apparitions et du lien que ça a avec des couches un peu plus profondes, on va dire, presque minérales, géologiques. Voilà.
Alors quand vous créez des apparitions imaginaires, vous les créez selon quels critères? Qu'est-ce qui vous plaît? Peut-être que ces apparitions parlent un petit peu plus de vous dans ces cas-là.
Oui, alors je crois qu'enfant, j'étais un lecteur de Planète. Et je crois qu'en fait, lorsqu'on n'est pas comme ça dans un monde d'exposition, un monde culturel, parenthèse, je pense que ça m'offrait une sorte de monde hyper délire, onirique, rempli d'histoires, où tout était mélangé, le fantastique était mélangé avec la science. Et je pense que ça me faisait triper comme un enfant de me dire, il y a peut-être des ovnis qui arrivent, qui traversent notre monde. Donc d'un coup, on se met à regarder le ciel, à imaginer, mais est-ce qu'ils viennent du passé, est-ce qu'ils viennent du futur? Donc il y a une sorte de... Ça parle du merveilleux, je pense, et ça remplace aussi peut-être des pertes du merveilleux dans ces histoires-là. Donc ça a énormément nourri mon imaginaire, en fait, adolescent.
Par exemple, sur ce mur, quelle serait la représentation que vous avez imaginée? Est-ce que vous pourriez nous la décrire?
Ce qui me plaît dans l'installation, c'est que... Il y a toujours quelque chose un peu comme ça d'imperceptible et qui est difficile à décrire dans mon dessin. Donc c'est peut-être ça qui se rapproche le mieux, c'est-à-dire on est entre plusieurs choses, on est entre des courants d'énergie, des choses telluriques, des choses qui se solidifient, des choses qui disparaissent. Donc c'est peut-être un mélange de tout ça que inconsciemment je crée et je recrée à chaque fois.
Alors effectivement, puisqu'il y a toute une vision de trombe céleste, d'espace cosmique fiévreux et perturbé. Et au sein de tout cela, il y a des petits cadres dans lesquels il y a des coupures de journaux, des photographies scientifiques, ou au moins un travail fait à partir de photographies scientifiques, des saisies comme ça d'objets volants non identifiés en couleur, et tout cela dans des cadres qui sont d'habitude les cadres que l'on utilise pour le père, la mère ou la tante Hortense. Il y a quelque chose à la fois de très familier, là du coup de très réaliste, peut-être de très quotidien, a pris dans une espèce de tourbillon apocalyptique qui est la folie cosmique. Donc c'est la hauteur entre deux dimensions.
Oui, exactement, mais parce que aussi il y a quelque chose de très personnel dans toutes ces observations, en fait. C'est-à-dire, vous allez observer quelque chose d'une certaine manière par rapport à un héritage, par rapport à une histoire. Moi, mon histoire va être tout autre, celle de mes parents va être tout autre. Donc en fait, il y a aussi quelque chose d'éminemment personnel de ces observations. Les gens les modifient chaque fois à leur manière, ils rajoutent des détails, ils transposent des choses, ils imaginent, ils ramènent ça à leur famille, ils y trouvent un signe. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de de l'ordre du cosmique, de l'infiniment grand, et quelque chose de très intime, très personnel. Et donc c'est aussi ce jeu avec ces petits cadres, comme des cadres qu'on aurait trouvés. Ou...
Merci Abdelkader Benchama. On va maintenant se diriger vers les cartes postales de Rémi Bragard. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas une gigantesque fresque où tourbillonne la puissance du cosmos, avec incrusté dedans des visions d'OVNI, du faux, d'ufologie et tout. Ce sont des cartes postales. Alors, l'une d'entre elles est authentique et les autres sont des cartes postales.
Elles sont toutes authentiques.
Ah, toutes sont authentiques.
Oui, c'est une collection de cartes postales qui représentent toutes la même sculpture, le même monument, mais à travers un siècle, en fait. Et certaines techniques de reproduction sont un peu étranges. Donc on a l'impression qu'elles ont été retouchées, mais en fait, c'est dû aux successions de manipulations entre photographie, gravure d'après photo, recolorisées. Donc c'est vrai que sur certaines, on se demande. Mais en fait, non, ce sont des cartes postales.
Alors, que représente cette carte postale? Voilà. C'est tout l'intérêt de la chose. Ouais. Et d'abord là, c'est un globe terrestre, mais pas n'importe lequel. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont il est disposé. C'est-à-dire que la Terre évoque quand même, d'une certaine façon, la stabilité. Et là, la manière dont la chose est placée, on a l'impression qu'on est à la limite de la stabilité. Donc il y a une espèce d'inquiétude dans cette carte postale.
Il y a ça, oui, il est vrai. Et ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, c'est que elle est disposée en face d'une pente douce et d'une falaise. Bon, ça ne se voit pas, mais donc on n'est pas loin de la chute. Non, ce que je propose là, donc dans cet ensemble de 28 cartes postales, c'est 4 fois. Donc on l'a dit, c'est pas très spectaculaire, mais c'est quand même un voyage spatio-temporel, car on fait 4 fois le demi-tour du globe. C'est ce que j'ai réussi en 2 ans de recherche, à trouver assez de points de vue pour qu'on puisse faire le demi-tour, parce que le tour était impossible, sachant que les photographes n'ont pas eu envie de prendre d'autres points de vue. Donc j'ai fait 4 fois le demi-tour, et en gros entre 1890 et 1980. Donc j'ai voulu mélanger un petit peu aussi la chronologie pour pas que ce soit simplement un déroulé. Donc effectivement, ça crée une ambiance un peu particulière aussi. C'est dû au fait qu'on y voit aussi des gens qui s'y... on dirait un endroit de culte aussi. Il y a des gens qui s'y approchent, qui le regardent, qui sont un peu prostrés devant. Donc voilà pour la description. C'est sûr, c'est toujours difficile de décrire.
Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de créer un globe, et que représente-t-il?
Ce globe, donc c'est la représentation du globe terrestre en pierre, donc il est assez conséquent parce qu'il fait 3 ou 4 tonnes, je ne me souviens plus, 3 mètres de diamètre. Et pourquoi? C'est un riche entrepreneur qui avait des carrières de pierre, justement, qui a fait fortune parce qu'il a d'ailleurs bâti beaucoup de bâtiments à Londres et ailleurs en Angleterre. Et donc il a offert à sa municipalité ce globe en terre. Mais c'est aussi un objet de vulgarisation scientifique parce qu'il y a des stèles que l'on peut lire derrière cet objet, qui raconte le système solaire, les distances entre les planètes. Après, quelques années plus tard, enfin des dizaines d'années plus tard, des décennies plus tard, il y a aussi des stèles avec des poèmes autour du cosmos qui ont été rajoutés. Donc c'est un objet aussi, on s'y rend aussi pour apprendre autour de ce globe. Voilà.
Et qui a évolué au fil du temps.
On voit bien sûr à travers donc ces 28 cartes, et ce siècle, tout évolue. Le globe lui-même, son environnement... C'est parfois en friche, parfois on voit qu'il y a un soin qui a été apporté pour le protéger. Enfin, il y a tous ces petits détails qui comptent et qu'on peut voir, effectivement.
C'est une quête de ces cartes postales, j'imagine, assez inlassable et difficile, puisque ce ne sont pas des documents que l'on trouve facilement, et qui me font penser un peu à la quête de Jean-Marie Donat, qui lui aussi cherche des photos singulières, par exemple des photos où le photographe a laissé son ombre apparaître dans le cadre, par exemple des photos de Père Noël, mais où le Père Noël est cruel et fait pleurer les enfants, toutes les sortes de photos particulières. Il y a aussi une espèce de frénésie un peu hallucinée dans cette quête de cartes postales quand même très rares, et j'imagine très difficiles à trouver.
Et bien joué, j'ai mis 2 ans pour les obtenir, et je crois que j'ai épuisé, sachant que ce monument n'est absolument pas connu. La plupart de mes amis anglais n'ont jamais entendu parler de ce globe au bord d'une falaise dans le Dorset. Donc je me suis pris au jeu. Je pratique la collection, mais à différents moments, parce que je pratique plutôt la sculpture d'ailleurs. Hein, donc c'est une collection d'images. On est d'accord, c'est une sculpture, c'est un monument. Donc, c'est sûrement pour ça que je me suis pris au jeu. Mais parfois, oui, je collectionne.
En quoi cette collection de cartes postales s'intègre-t-elle dans ce concept de réalisme fantastique?
Alors, par rapport au contexte, je pense que ce qui se dégage justement
d'étrange, donc une porte vers le fantastique. C'est justement, encore une fois, c'est cette chronologie un peu floue où on situe à peu près les dates. Mais encore une fois, dans la lecture des reproductions des cartes, encore une fois, les successions des techniques utilisées, encore une fois, on se demande si c'est ce que vous m'avez dit en premier, est-ce qu'elles sont véritables ou pas. Donc en fait, c'est daté, mais de manière un peu étrange. Et le fait qu'on y voit des personnes prosternées ou en train de tout simplement de l'observer hein, avec précision, ça en fait une sorte de lieu de culte étonnant, des gens qui viennent se rassembler autour du globe, en fait, comme au chevet du globe, ou je ne sais pas comment dire. Donc ça donne ces impressions-là.
Merci Rémi Bragard. Donc puis on va aller aussi se mettre au chevet donc de ce globe terrestre. Alors là, nous sommes donc au niveau 2 de l'exposition Un autre monde dans notre monde, avec des dessins de Fred Deux, donc on a évoqué tout à l'heure, dans son rôle dans l'histoire du mouvement surréaliste replié à Marseille. À côté, une photo singulière d'un personnage qui, buvant un verre de lait, trouve emprunt sous son nez comme une petite moustache hitlérienne, quelque chose de très étrange, lui-même ayant une chemise blanche avec une sorte de baudrier, donc et une chevelure blonde, une photo assez singulière. Et puis alors là, Céline Duchesnay, là, on a affaire à véritablement quelque chose qui est à la fois totalement contemporain, puisque ça réfère à un événement catastrophique qui est vraiment récent, mais en même temps, on songe au tout début de la photographie, quand les premiers photographes scientifiques s'aventuraient à photographier des plantes, des micro-organismes, des pierres. Donc une sorte de conjonction entre une démarche scientifique et puis une espèce d'apocalypse contemporaine.
Alors oui, parce que si vous parlez d'apocalypse, François, c'est parce que le travail donc d'Anaïs Tondeur est un travail photographique. Donc en effet, on voit des plantes, mais ce sont des plantes qui datent de l'après Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on voit les plantes en noir et blanc, mais sur les photographies, on voit l'impact de la radioactivité qui transforme ces plantes en quelque chose d'assez fantastique, assez irréel, fantomatique, près, avec des ombres, des petits points partout. Et on ne sait plus si ce sont des plantes, si c'est un herbier, si ce sont des plantes vivantes, si ce sont des plantes mutantes, si ce sont de futurs monstres de notre humanité qui sont là, présents devant nous.
Par contre, là, la prochaine œuvre joue sur un tout autre registre, qui est un registre à la fois décoratif, ludique et fantastique, puisque on pense à certaines œuvres effectivement de l'art brut. C'est une œuvre de Jean-Louis Montigone qui représente des chimères agrippées à une sorte de machine avec des rouages, une sorte de marteau-pilon, des chimères qui sont en train de se battre ou essayer de dominer un marteau-pilon, avec à côté des dispositifs mécaniques qui peuvent être proches de ceux que faisait Picabia, et en dessous, un décorum qui est un peu celui qu'on voit sur les façades haussmanniennes, en dessous des figures de moutons, de béliers, et au milieu, une sorte de machine à vapeur. Donc c'est très étrange, c'est une rêverie à la fois cauchemardesque, chimérique et machinique, qui utilise la folie industrielle avec, en tentant de détourner les apparences de la façade bourgeoise, très, très étrange.
Mais qui peut en cela nous rappeler le matin des magiciens, où vous avez ce mélange des genres, où tout à coup vous êtes face à une description scientifique, et puis tout à coup vous partez dans la fiction et vous tombez dans l'onirique. Donc je crois que là, François, on peut voir le lien avec le réalisme fantastique tel que Berger et Powells nous l'avaient présenté.
Un peu plus loin, alors voilà quelque chose qui plairait énormément à Xavier Mauméjean ou à Clément Pierre, qui fut conservateur à la Bibliothèque nationale et qui nous avait ouvert le fonds Pierre Boulle, puisque ce sont les très rares photos de plateau de la planète des singes. Alors évidemment, on connaît le film par cœur, mais là, on voit les singes, non pas à l'intérieur d'un cadre et filmés, mais, entre les prises. Et c'est tout à fait extraordinaire, puisque visiblement, ils ont été pris dans la petite ville qui se situe à côté du désert où certaines scènes sont tournées. Donc on voit là une dame à moto, à côté duquel il y a une sorte de singe anthropoïde, un cow-boy qui regarde le singe un peu inquiet, une scène de tournage, les singes accoudés à une sorte
de chantier de peinture avec à côté un peintre qui est assis. C'est très amusant de voir des figures emblématiques du cinéma de genre sorties de leur contexte et plongées dans le quotidien. Et là, l'extraordinaire vertu de ces personnages de singes anthropoïdes filmés par Franklin Schaffner est encore plus intense quand ils sont mêlés à un quotidien qui n'est pas celui du post-apocalypse où l'homme est réduit à l'esclavage, mais au contraire celui du quotidien et de la rue d'une petite ville américaine.
C'est sûr que vu dans ce contexte, on a vraiment le sentiment que les singes sont là pour ouvrir des brèches, ouvrir vers l'imaginaire, et alors là pour le coup un imaginaire assez fou.
Tout au long de cette exposition, Un autre monde dans notre monde, voué, c'est le troisième temps de cette réflexion qu'a organisée Jean-François Sens autour du réalisme fantastique. Réalisme fantastique, Agnès B., on vous pose la question, aujourd'hui, à cette date, qu'est-ce que ces mots vous évoquent ?
Des territoires à explorer, vraiment. Donc ça donne l'occasion justement d'essayer de se rapprocher de tout ça, même si on a été fasciné par Lovecraft et par les auteurs avant, mais là il y a les images, il y a plein de choses, plein de recherches que je trouve passionnantes en fait. Et Jean-François a mis dans cette exposition cette scène que j'avais filmée dans les Landes avec deux danseurs de buto, des gens merveilleux qui m'ont fait, que j'avais fait venir du Japon pour mon film, je m'appelle Un. Et donc Jean-François a voulu mettre ça dans son exposition, ça me fait plaisir. Vraiment, parce que je suis très impressionnée par ses recherches, par ce qu'il a trouvé. Parce que moi je me souviens de Powels, Bergier, tout ça, on lui prenait un peu pour des rigolos il y a très longtemps. Du temps de Christian Bourgois, avec qui j'ai été mariée, peut-être à ce moment-là, justement dans les années 60.
Christian Bourgois avait publié un livre de Bergier qui s'appelait Admiration. Ce qui reste aujourd'hui peut-être de Powels et Bergier, c'est leurs admirations, c'est-à-dire tous ces artistes qu'ils ont, nous ont donné à aimer, c'est-à-dire effectivement Gourmelin, c'est-à-dire Lovecraft, c'est-à-dire tous les visionnaires fantastiques qui étaient dans les 23 numéros de Planète. C'est l'admiration qui reste. Les idéologistes, autre chose, mais l'admiration, elle se maintient.
Et puis en plus, je pense que maintenant, il y a des choses qui se passent avec le dessin animé qui sont du nouveau fantastique. J'en ai vu là des Français qui font des trucs incroyables, qui étaient montrés d'ailleurs à Hollywood pour les Oscars. Hein. Et j'ai trouvé que ça allait plus, ça continuait. Quoi. C'est ça que j'ai trouvé très beau. Et j'ai envie d'en voir, de connaître mieux ça. Parce qu'on est très fort en France avec ces dessins animés. Alors c'est autre chose, c'est une autre sorte de culture, mais pour moi, il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? La contre-culture ? Non. Moi, j'aime. Oui, mais j'aime pas ça. On en parle quand même encore.
Alors on pourrait peut-être parler, Agnès B., de cette vidéo qu'on a sous les yeux. Donc nous sommes dans une forêt, dans les bois, dans les Landes. Et nous avons donc deux personnages, un homme et une femme, deux Japonais, qui sont entièrement blancs, peints en blanc. Donc on voit leurs yeux qui ressortent de manière assez saisissante. Et les personnages sont en train de danser cette danse du buto, très au ralenti, comme si le temps était suspendu et qu'on nous proposait un voyage intérieur.
Oui, mais le buto, ça a été créé après la guerre, après la bombe atomique. Et ils sont comme irradiés, ils sont complètement blancs. Et c'était une manière de protester contre la bombe atomique, en fait. Ça, c'est né comme ça. Et donc, ce sont des gens qui expriment, je sais pas quoi, une inquiétude. Ils sont très captivants, regardez, avec ces gestes très lents. Ils sont tout peints en blanc, lui, la tête rasée. Et là, il n'y a en effet que les yeux, tout est peint en blanc. Je les ai vus se peindre, c'était beau à voir aussi. Et donc, ils sont dans les Landes pour le tournage de mon film. Je les ai fait venir. Il y avait une scène avec du buto, je voulais qu'il y ait ça. Une espèce de résistant d'une autre manière, ça me plaisait. Pour cette petite fille qui sauve de chez elle et qui fait un long voyage en compagnie de Douglas Gordon dans les Landes, dans un camion de mon film qui s'appelle Je m'appelle M, avec des acteurs formidables, le père et la mère. J'ai toujours vu ce paysage comme une portée pour écrire des notes, en fait. C'est ce que je me disais quand j'étais à l'avant du camion, faire des repérages et tout. Mais c'était un tournage formidable en même temps.
Alors on termine cette émission avec quelqu'un que l'on connaît bien et que l'on aime beaucoup à Mauvais Jean, puisqu'il est déjà venu au moins deux fois et qui là nous a amené, Céline, une armure, mais non pas une armure avec austère, dressée, une armure assise et qui semble avoir s'être vu pousser une végétation de métal.
Mais oui, nous sommes avec Abraham Poincheval, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois à Mauvais Jean. Et alors là, on est devant une vidéo. Et dans cette vidéo, on vous voit en chevalier médiéval, avec une armure rutilante, brillante, magnifique, en train de marcher et de traverser la campagne. Je crois que c'est un long chemin que vous avez fait d'une dizaine de jours, où vous avez marché avec une armure. Alors déjà, pourquoi ce désir ?
C'est quand je suis arrivé dans le lieu en fait, où on m'avait invité, j'avais été assez époustouflé, sidéré par la qualité d'un paysage que je me disais, mais en fait il y avait des résurgences médiévales et que je me disais, mais voilà, je trouvais ça génial qu'un paysage qui puisse encore y avoir comme on parle de forêt primaire aujourd'hui, je me disais, mais peut-être qu'il y a encore des paysages comme ça qui ont encore toutes ces histoires à l'intérieur d'elles et en même temps qui côtoient un aérodrome, enfin des choses comme ça. Et du coup, je me disais, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de ça ? Qu'est-ce que je pourrais porter avec moi ? Qu'est-ce que je pourrais emporter ? Et je me suis dit, ben, peut-être le mieux, c'est de sortir de ce paysage avec une armure et de transporter ce paysage jusqu'à la mer. Voilà, c'est un peu parti comme ça, l'idée. Et j'aimais bien cette idée de carapace, cet exosquelette, et de me dire que finalement, j'étais pas loin d'une voiture ou d'un tracteur, finalement, avec cette armure. J'étais à mon propre monteur, mon propre rythme. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'était aussi de disparaître petit à petit dans cette armure. Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup être enfermé dans les objets. Je suis très sensible à la question d'être à l'intérieur de quelque chose. Et là, je me disais, ben, en fait, je suis à l'intérieur sans y être trop. Enfin, c'est moi qui l'active. Et ce que j'ai trouvé assez fort, c'est que petit à petit aussi, comment cette armure peut-être me mangeait petit à petit, me dévorait. Et à la fin, en fait, finalement, il ne restait plus grand-chose. Je crois que c'est dans Italo Calvino, dans son triptyque en fait, qu'il avait fait entre le Baron Perché. Je crois qu'il y en a un des ouvrages qui est autour du chevalier lumineux, enfin, je ne sais plus trop quoi. Et en fait, à la fin, ils veulent désosser le chevalier. En fait, il n'y a rien dedans. Et je trouvais ça aussi assez fort, cette idée de petit à petit disparaître à l'intérieur. Voilà. Et du coup, pendant 10 jours, j'ai erré. Je suis allé dans les hôtels, j'ai dormi dehors. J'ai rencontré des gens, je me suis retrouvé dans des soirées, en bord de mer, et voilà, et c'était très très, c'était assez magique du coup aussi.
Abraham Poincheval, votre prochain projet est un projet à nouveau de dépassement, et cette fois-ci, vous avez l'envie de marcher sur les nuages. Donc comment peut-on marcher sur les nuages ? Si ça, ce n'est pas une expérience de réalisme fantastique, ou de fantastique un peu réaliste.
Comment fait-on ? Bien entendu, dans tout art, il y a toujours un artifice. Et donc, du coup, voilà, là, d'une façon très simple, c'est je suis emporté par un ballon avec un moteur électrique et en fait qui va me hisser à 100-150 mètres au-dessus du sol et qui va me poser délicatement sur la canopée nuageuse. Et c'est une marche comme ça, dans un paysage toujours en mouvement, toujours fluctuant. Et c'est ce qui, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, c'est un projet que je... depuis 10 ans auquel je pense. J'avais commencé à y réfléchir avec la vigie en montant petit à petit en étage. Et là, du coup, là, je me libère de cette vigie et maintenant, je peux me déplacer à pied.
Très bien. C'est sur cette vision d'Abraham Poincheval marchant sur les nuages après avoir fait retentir l'apocalypse de métal dans les forêts bretonnes que nous terminons cette pérégrination au sein donc, de l'exposition Un autre monde dans notre monde consacrée au réalisme fantastique. Wow. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission consacrée ce soir donc à l'exposition Un autre monde dans notre monde, consacrée donc au réalisme fantastique et visible à Marseille, au FRAC, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Paul Ressier, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnet et François Angelier, vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous évoquerons Lovecraft à l'occasion de la sortie aux éditions ActuSF de la grandiose biographie de ST Joshi. Et d'ici là, bonne nuit à tous. Thank you.